VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, à midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Corne de l'Afrique, le premier vol commercial en 20 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée a relié ce mercredi Addis Abeba à Asmara. Nouvelle étape de la réconciliation spectaculaire en cours entre les deux anciens frères ennemis. L'oiseau de paix vient d'atterrir à Asmara, la capitale érythréenne, a annoncé sur Twitter Ethiopian Airlines, dont le vol ET0312 avait quitté l'aéroport international Bole d'Addis Abeba 1h30 plus tôt. Ce jour représente un événement unique dans l'histoire de l'Éthiopie et de l'Érythrée, a commenté le directeur général d'Ethiopian Airlines, Terolde Gebremariam. Au Sénégal, la cour d'appel de Dakar a rejeté ce mercredi la demande de remise en liberté du maire de la capitale, Khalifa Sall, condamné pour détournement de fonds publics. Une requête présentée par la défense sur la base d'une décision d'une juridiction ouest-africaine. La cour rejette les demandes de nullité de la procédure et de libération d'office de Khalifa Sall, condamné en mars à 5 ans de prison, a déclaré son président Demba Kanji en ouverture d'une audience très attendue au Sénégal. Le président du tribunal a fait expulser le public de la salle à la suite de manifestations de désapprobation de l'assistance, dont des huées des partisans du maire de Dakar, qui est un opposant au président Macky Sall. Afrique de l'Ouest toujours, Mali. L'ONU exprime sa profonde inquiétude face aux violences qui ont eu lieu dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Des troupes qui ont fait au moins 289 morts dans la population civile, selon l'organisation internationale. Plus de détails avec Ekia Badou.
Dans un communiqué, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU se dit profondément inquiet face à l'amplification des violences perpétrées dans la région de Mopti. Au cours des dernières semaines, l'organe a recensé une vague alarmante de fuites de civils de leur domicile après qu'ils ont été eux-mêmes pris pour cible du fait de leur appartenance à une communauté ou alors en lien avec des attaques mortelles menées contre des membres de leur communauté dans des villages voisins. Selon la même source, ces attaques qui seraient menées par des chasseurs d'ozo et des éléments de milices Dogon s'en prendraient à des membres de la communauté Peul alors qu'elles prétendent lutter contre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. La situation dans le centre du Mali conjugue menaces djihadistes et violences ethniques alors que le pays se prépare pour l'élection présidentielle du 29 juillet.
Afrique centrale maintenant, RDC, le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, exhorte Kinshasa à enquêter sur l'implication de certaines autorités congolaises dans le soutien aux milices qui ont ensanglanté la région du Kasaï dans le centre du pays en 2016-2017. Une requête présentée mardi. Un récent rapport du groupe d'études a estimé à plus de 3000 morts le bilan des violences entre septembre 2016 et juillet 2017. Les troubles ont commencé en août 2016 après la mort d'un chef traditionnel, Kamuina Nsapu, tué dans une opération des forces de sécurité congolaises après s'être ouvertement opposé au pouvoir de Kinshasa. Et toujours en République démocratique du Congo, inquiétude quant au sort de la presse en ligne. Les éditeurs locaux s'interrogent sur la volonté des autorités d'encadrer leurs médias et les réseaux sociaux. Les sites d'information en ligne avaient jusqu'au 14 juillet pour mettre en œuvre un arrêté du ministère de la Communication. La plupart n'ont pas obtempéré dans l'attente de rendez-vous avec le ministre concerné. De Kinshasa, le correspondant de VOA Afrique, Patrick Abega, fait le point.
Selon ces décrets au 14 juillet 2018, tous les médias en ligne devaient se faire enregistrer selon la procédure légale fixée par la loi. Mais l'association des médias en ligne a demandé un moratoire afin de rencontrer le ministre Lambert Mende pour fixer les bases de cette réglementation. Ces décrets visent en partie l'assainissement du secteur des médias en ligne qui sont devenus nombreux à l'approche des élections de décembre tant attendues en RDC. À la veille des élections en RDC, il y a prolifération des médias en ligne. Certains donnent place à la partialité et à la propagation des fake news, mais d'autres ont gardé les caractères impartials au nom de la démocratie.
Internet congolais, le web congolais était essentiellement composé des personnes qui mettaient du contenu contre le pouvoir en place. Des gens qui essentiellement étaient basés en Europe. Maintenant, avec des médias qui sont basés ici en RDC, on a la possibilité justement de donner la parole en même temps à l'opposition, en même temps également au pouvoir en place pour qu'ils puissent justement s'exprimer. Et ce n'est que comme ça que l'on peut bâtir notre jeune démocratie.
Aussi, il faut signaler que le média en ligne échappe quelquefois au contrôle de l'État par le fait qu'ils utilisent souvent des nouvelles technologies. Et donc, jusqu'à ce jour, le ministre Lambert Mende n'a toujours pas donné de suite à la demande des responsables et promoteurs des médias en ligne pour qu'enfin ils puissent discuter. Patrick Abega, Kinshasa pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Guinée équatoriale, poursuite du dialogue national à Malabo, un dirigeant de l'opposition y a réclamé mardi la démission du gouvernement. Il dénonce la mauvaise foi du président Teodoro Obiang Nguema, qui selon lui n'a pas respecté sa promesse de libérer les prisonniers politiques. Le point avec Irénée Hermanoumbo.
C'est au deuxième jour du dialogue national qu'Andrés Essono Ondo, secrétaire général de Convergence pour la démocratie sociale, deuxième parti d'opposition, est sorti de ses gonds pour dénoncer l'incapacité des autorités de Malabo à appliquer et à respecter les lois de la République. Le CPDS réclame la démission du gouvernement, pointant du doigt la non-application du décret présidentiel du 4 juillet qui offrait une amnistie totale à des prisonniers politiques, mais qui sont toujours détenus dans les geôles de la prison équato-guinéenne. Ce n'est pas à ce forum de dialogue national que la légitimité du gouvernement sera remise en cause, s'insurge Eugenio Nze Obiang, porte-parole du gouvernement. Ouvert lundi par le président Teodoro Obiang Nguema, cette plateforme de discussion politique devrait permettre aux acteurs politiques de véritablement réfléchir à l'avenir politique du pays. Mais les principaux leaders de l'opposition y sont absents. Les ONG et la communauté internationale ne cessent de s'inquiéter du non-respect des droits de l'homme dans ce pays d'Afrique centrale, malgré les démentis de ses autorités. L'opposition dénonce régulièrement les exactions dont sont victimes ces militants emprisonnés.
Conflit au Soudan du Sud, le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud doivent signer jeudi un accord préliminaire de partage du pouvoir qui sera suivi d'un accord définitif le 26 juillet. C'est ce qu'ont annoncé mardi les autorités du Soudan voisin. Ni le président sud-soudanais Salva Kiir, ni son ex-vice-président et leader rebelle Riek Machar, protagoniste de la guerre civile dans le plus jeune pays du monde, indépendant du Soudan depuis 2011, n'ont rejeté le projet d'accord, a souligné le ministère soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué publié à Khartoum, où se déroule depuis juin une nouvelle série de pourparlers de paix sud-soudanais. L'accord définitif doit être signé le 26 juillet en présence du président du Soudan, Omar al-Béchir, et d'autres leaders de l'Afrique de l'Est. L'Afrique du Sud a salué ce mercredi l'héritage de Nelson Mandela, icône mondiale de la lutte contre l'apartheid, qui aurait eu 100 ans ce 18 juillet. Il y a eu une marche symbolique conduite par sa veuve grâce à Machel et un forum sous la direction de l'ancien président américain Barack Obama. Chaque année, le Mandela Day, qui marque la naissance le 18 juillet de 1918 de Mandiba, est célébré dans le monde entier. Agissez, inspirez le changement, faites de chaque jour un jour Mandela, exhorte la fondation qui porte son nom. Actualité américaine maintenant, le président Donald Trump est revenu sur ses propos de lundi à Helsinki, en Finlande, pour dire maintenant qu'il accepte les conclusions des agences de renseignement des États-Unis selon lesquelles la Russie s'était ingérée dans la présidentielle américaine de 2016. Plus de détails sur les déclarations de Donald Trump à ce sujet mardi avec Idrissa Sedoudia.
La veille, lors d'une conférence de presse à l'issue de son sommet avec Vladimir Poutine, Donald Trump avait accepté les démentis de son homologue russe à ce sujet. Le président américain a cependant ajouté dans une déclaration lue devant la presse mardi à la Maison-Blanche que d'autres personnes pourraient avoir aussi été impliquées dans cette ingérence électorale. L'acceptation publique des démentis de Poutine avait valu à M. Trump les vives critiques de parlementaires démocrates et républicains qui lui reprochaient de prendre le parti d'un dirigeant étranger plutôt que celui de ses propres agences de renseignement. Mais lors d'une réunion hier avec des membres républicains du Congrès, M. Trump a dit qu'après examen de ses remarques à Helsinki, il s'est rendu compte qu'il avait commis un lapsus en oubliant de mettre une particule négative dans une phrase clé. Il a expliqué qu'il avait déclaré « Je ne vois aucune raison pour laquelle cela serait la Russie qui serait ingérée dans l'élection » alors qu'il voulait dire en fait « Je ne vois aucune raison pour laquelle cela ne serait pas la Russie. » Cela dit, Donald Trump a répété que, de toute façon, les actions russes n'ont eu aucun impact sur sa victoire face à la démocrate Hillary Clinton et qu'il n'y a eu aucune collusion entre la Russie et sa campagne électorale.
Merci de votre attention.